Je ne commence à faire notre la vie. Jamais un mot de tout ça, t'es qui peut fini. Pas guère une seule raison pour tuer nos stories. Baby, dis-moi pour qui ça.
Il est 18h passé de 55 minutes. Bientôt, on sera en direct avec l'émission Ciné Forever avec notre animateur Patrick et toute l'équipe qui seront là pour vous parler aujourd'hui d'une journée spéciale sortie cinéma et plein de choses. Mais là, que la force soit avec vous. Alors, restez à l'écoute sur le bouquet de l'océan Indien, Dunia Web et aussi Mada In Radio, tout le bouquet de l'océan Indien, bien sûr. Et on revient dans quelques instants avec Patrick. Voilà. Ciné Forever.
Bébé, on nous fait une caisse.
Parlez pour moi, parlez tout doux. Parlez pour moi, en seule fois. Parlez pour moi, parlez tout doux. Parlez pour moi. Yo, t'es arrivé, séparez-nous. Nous revenons pour toujours. Yo, t'es arrivé.
Tell them by we are champions. Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur le média de l'océan Indien.
Salut à tous, bienvenue dans Ciné Forever, l'émission consacrée au cinéma. Et aujourd'hui, date importante due à la sortie de Rogue One, ça sera une émission spéciale sur Star Wars. Tout ce que vous avez voulu savoir sur Star Wars, en long, en large et en travers. À mes côtés, William.
Bonsoir à tous.
Abou au centre.
Technique, bien sûr.
Voilà. Et l'invité d'aujourd'hui, Christian Luca, je pense qu'on a dû te poser 50 millions de fois la question. Es-tu parent à Georges ?
Oui, bonsoir, effectivement. Christian Luca, bah, j'ai pas choisi. J'avoue que ça m'arrange un peu de m'appeler comme ça, mais non, je ne suis pas de la famille de Georges. Hélas, j'attends pourtant toujours un coup de fil de sa part, mais toujours pas de nouvelles.
Bah, ça arrivera peut-être un jour, on sait jamais. Et voilà, l'émission donc va commencer juste un petit interception musicale sur Star Wars ainsi que des bandes annonces. Vous allez voir, ça va être complet, tous les Star Wars, Rogue One, tous les dérivés. Ils vont avoir plein les yeux et les oreilles, comme on dit. Musique maestro.
Luke Skywalker n'était qu'un simple fermier. Lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message.
Au secours, Obi-Wan Kenobi.
Comme elle est belle.
La guerre des étoiles, avec Mark Hamill.
Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours.
Il recrute des nains maintenant dans les commandos.
Harrison Ford.
Il manque de conversation, ce type-là.
Luke, on va avoir la visite.
On n'a pas dû tourner où il fallait.
Carrie Fisher.
Bonne chance.
Alec Guinness.
Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer.
20th Century Fox présente le film le plus extraordinaire de tous les temps, La Guerre des Étoiles.
Attention, la fête va commencer.
Jamais aucune légende n'avait été aussi palpitante que cette épopée du futur.
Et voilà, ils arrivent.
Que la force soit avec vous dans La Guerre des Étoiles.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Ok, c'est parti pour l'émission spéciale Star Wars. Alors, Christian, raconte-nous un peu tous les films de Star Wars avant qu'on arrive à Rogue One. Il y en a quand même 7 de films.
Oui, absolument. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont pas commencé par le début et ça a tendance à se compliquer avec le temps. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de résumer un petit peu un petit peu tout ça. L'aventure a commencé en mai 77 aux États-Unis avec un film qui s'appelait Star Wars. En France, on l'a appelé La Guerre des Étoiles. Jusqu'ici, tout va bien. 3 ans plus tard, on a eu le droit à une suite qui s'appelait L'Empire contre-attaque. Et là où ça a compliqué les choses, c'est qu'il était sous-titré l'épisode 5. Donc les gens se sont demandé qu'est-ce qui se passe. On a ressorti Star Wars sous le titre épisode 4. Là, on comprenait. Et puis, bon, bah, George a expliqué que, donc le créateur, George Lucas, a expliqué qu'il voulait un jour revenir en arrière et puis raconter
les 3 premiers films.
Voilà. Donc, il a fait son 3e film, l'épisode 6, Le Retour du Jedi, qui est sorti. La cadence, c'était un film tous les 3 ans. Donc, il est sorti en 83.
Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu en penses des 3 premiers? Et bien sûr, La Guerre des Étoiles, tu dois adorer, je suppose.
Ah, bah.
Ainsi que l'Empire.
Oui, clairement. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont découvert en 77. Donc, pour moi, le premier, c'est la quintessence. C'est vraiment le film fondateur, le plus grand film de tous les temps, disait la bande-annonce. Et ils se sont pas trompés, selon moi. Voilà, ça fait partie de ces rares films qui peuvent changer une vie, influencer un destin. Voilà, c'est puis, au-delà du cinéma.
Bien sûr, et puis ça lançait la mode des space opéras, des films.
Absolument. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en dans 77, enfin dans les années un petit peu avant, la science-fiction, c'était des films déprimants, noirs. On avait Soleil Vert, on a eu L'Homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie, ce genre de films. C'était vraiment de la science-fiction qui était très très pessimiste. Et puis avec des musiques un petit peu bizarres, avec des bruitages. Et ce qu'a fait le génie du créateur George Lucas, c'est d'avoir fait une science-fiction positive. C'est ce qu'on voulait entendre, voir à l'époque, et mettre une musique orchestrale, ce qui a été complètement en contrepoint par rapport au film, et ce qui a donné la grandeur, la majesté du film. Une petite histoire, c'est que la première projection que George Lucas a fait auprès de ses amis, alors ses amis, vous les connaissez, hein, il y avait Francis Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg, toute la bande, John Milius, et la première projection, il n'y avait pas la musique, et tous ses copains étaient vraiment désolés, ils regardaient George en lui disant « c'est pas terrible, quoi », et il n'y a apparemment que Spielberg qui lui a tapé dans le dos, qui lui a dit « si, il y a quelque chose, ça va être bien », et Spielberg avait bossé avec John Williams sur Les Dents de la Mer, il lui avait refilé Williams à Lucas, mais la musique n'était pas prête. Et quand il y a eu la musique, effectivement, ça a pris toute sa splendeur, toute son envergure, et c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le thème certainement le plus connu de l'histoire du cinéma, je pense, Star Wars. Donc voilà, donc ça s'est créé comme ça. Donc 83, donc George Lucas sortait, donc il a divorcé, c'était pas facile pour lui. Il était au sommet d'un empire, il avait tout réussi. Entre temps, il avait créé Indiana Jones aussi, petite franchise. Aussi également très connu.
Pas trop connu, quoi.
Voilà, ouais, tout à fait. Bon, Les Aventures de l'Arche Perdue, tout ça. Bon,
personne ne connaît.
Ami, avec son ami Steven. Donc, il était épuisé, il était fatigué. Et puis, surtout, les ambitions qu'il avait, c'était de revenir en arrière, faire épisode 1, 2, 3. Et là, il se disait que le budget serait pharaonique. Il n'avait pas la technologie pour faire ce qu'il voulait faire. Donc il a pris du recul, il a fait des petits films par-ci par-là, il a arrêté de réaliser depuis longtemps, puisque à la fin du premier film en 77, il était tellement épuisé qu'il a dit plus jamais je refilmerai moi-même de ma vie. Donc il a pris d'autres metteurs en scène.
C'était dû, je crois, sur le tournage où les techniciens anglais lui fait voir de toutes les couleurs.
Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'il a tourné en Angleterre en 76 pour des raisons de budget, c'était moins cher de tourner en Angleterre qu'aux États-Unis. Et les techniciens, c'était tous des vieux de la vieille qui le prenaient de haut. À chaque fois qu'il demandait quelque chose, ils lui disaient non, on veut pas, on préfère faire comme ça. Donc il piquait des crises sur le tournage. Quand il revenait aux États-Unis pour voir où en étaient les effets spéciaux, ce qui est devenu juste après ILM, donc la grande société d'effets spéciaux, c'était une bande de babacool dans un hangar qui jouait, qui s'amusait, mais qui finalement faisait pas grand chose de concret. Donc il piquait des crises partout où il allait. Il est ressorti absolument épuisé. avec un film magistral, mais donc il a dit plus jamais la mise en scène, quoi, en fait.
Parce que c'est vrai que c'était une première au niveau des effets spéciaux. On n'avait jamais fait réaliser ce genre d'effets spéciaux avant.
Alors, ce qui est intéressant, oui, tout à fait, c'est que à l'époque, en 77, ça fait un peu vieux de dire ça, mais il n'y avait pas de société d'effets spéciaux. Ça n'existait pas. Il y avait 2-3 personnes qui faisaient des effets spéciaux pour la Tour Infernale, etc. Et en 68, quand Kubrick a fait 2001, il avait recruté des gens, mais c'était pas une société qui faisait des effets spéciaux. Donc lui, il a dû fonder sa propre société d'effets spéciaux. Alors, il a eu certains disent la chance, mais pour moi c'est le génie de recruter des génies. Il a récupéré tous les grands de ce nom, notamment John Dykstra pour les effets spéciaux du premier film. Et c'est à partir de ça qu'il a pu fabriquer ce qu'il voulait, parce que personne, il y a aucune société ne pouvait l'aider. C'est dans les années 80 qu'on a eu l'émergence de tout un tas de sociétés d'effets spéciaux qui sont souvent basées à partir de transfuges d'ailleurs de la société créée par George Lucas.
Des images de synthèse, quoi.
Alors, les images de synthèse sont arrivées un peu après, plutôt courant des années 80, et c'est justement ce qui manquait à George Lucas pour faire ses films suivants. Quand il avait donc le premier budget, je crois que 77, Star Wars avait coûté 10 millions, L'Empire un peu 15 ou 20, et Le Retour du Jedi avait coûté 32 millions, ce qui à l'époque était énorme, absolument énorme. Donc, pour faire ce qu'il voulait faire, c'était juste impossible. Donc, c'est quand les effets spéciaux numériques sont arrivés, quand la technologie était mature, parce qu'il a énormément investi là-dedans, qu'il a pu se relancer. Donc ILM est devenue la société de référence d'effets spéciaux qui a fait tous les grands films, et notamment Jurassic Park, et de son ami Steven Spielberg. Et quand George Lucas a vu Jurassic Park, il a compris qu'il pouvait se remettre à Star Wars. Que ça y est, il avait la techno qui lui permettait de faire des créatures en images de synthèse indécelables. C'était vraiment ça qu'il souhaitait. Donc il y a eu une très longue traversée du désert, d'une dizaine d'années, où il a produit quelques petites choses. Il a notamment fait le premier morphing au cinéma, dans Willow, où c'est une créature qui va se transformer en une autre de façon fluide. Ça, c'est absolument spectaculaire. Donc il a pas lâché, il a investi, il s'est développé partout pour arriver justement à faire ce qu'il voulait. Et donc en 97, il a pu sortir une édition spéciale de Star Wars, donc il est malin, et en plus
il a envie de faire des images pour le film, en fait.
Ouais, en fait, Lucas, il a cette caractéristique d'être un indépendant. C'est-à-dire que vous connaissez tous les metteurs en scène indépendants qui font des films à Sundance. Et ben lui, c'est aussi un producteur indépendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'argent des grosses majors pour faire ses films. Enfin, il n'avait pas besoin. Il a tout fait tout seul avec ses propres argent, bien sûr, grâce à l'argent de Star Wars. Et donc ça lui coûtait une vraie fortune. Donc il investissait pour pouvoir toujours regagner. Et donc, quand il a voulu se lancer dans les épisodes 1, 2, 3... pour mesurer quand même un petit peu la température, parce que c'était quand même 10 ans sans Star Wars. Hein. Je me souviens de l'époque où c'était une traversée du désert, où on faisait les boutiques de sol pour acheter les figurines à 3 francs, parce que plus personne n'en voulait. Souvenir. Donc il a dit, je vais faire une édition spéciale de mes films originaux, l'épisode 4, 5, 6, où il a refait des effets spéciaux, il a pu réincruster des scènes, et il y a eu un succès absolument phénoménal de sortie de ces films-là. Ce qui lui a dit, et ce qui lui a permis de comprendre que ça y est, le marché était mûr, Star Wars n'était pas oublié par les fans, il avait la techno et il avait les fans qui étaient en attente. Donc il a lancé le projet.
Et qu'est-ce que tu penses du Retour du Jedi ?
Alors, le Retour du Jedi, moi j'ai une affection particulière pour ce film. Alors, on le critique parfois parce qu'il y a des petits nounours, des Ewoks, etc. C'est quand même, et j'y repensais en sortant de l'épisode 7, c'est le film le plus festif. C'est-à-dire que c'est la fête. C'est la fin d'une histoire, la fin d'une traversée, d'un grand voyage qui nous a emmenés pendant 6 ans. Et ça finit d'ailleurs par un feu d'artifice. C'est une conclusion. Alors, c'est pas intrinsèquement le meilleur film de la saga, mais c'est le plus festif. Parce que quand on pense aux autres, le premier est festif. L'Empire contre-attaque se finit mal. L'épisode 7, on va pas dire que ça se passe très très bien. L'épisode 1, 2, 3 non plus. Donc c'est vraiment la fête. C'est pour ça que
voilà. Un petit peu de musique, Maestro.
C'est un moment dangereux pour toi. Lorsque tu vas être tenté par le côté obscur.
Je ne connais pas la peur.
Tu auras peur.
N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
Je t'aime.
Je sais.
La force est avec toi, jeune Skywalker.
Mais tu n'es pas encore un Jedi.
R2, reviens immédiatement. Je suis là en mille morceaux et monsieur a des idées claudes.
Voilà, ben, vous venez d'écouter le thème doré de Star Wars numéro 7. Et vous avez tous reconnu la bande-annonce de l'Empire contre-attaque. On continue avec la deuxième trilogie, on va dire.
Oui, tout à fait. Donc en fait, George Lucas a pu démarrer son épisode 1 qui est sorti en 99. Et là, il s'est passé quelque chose un petit peu difficile pour lui. D'un côté, ça a été un événement phénoménal. Un énorme succès, il y a eu une attente, il y avait des queues, c'était de la folie. Mais il a eu deux petits incidents. Le premier, c'est qu'un mois avant, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Matrix. Et quand on compare le visuel de Matrix et celui de l'épisode 1, bah, ça rend un petit peu l'épisode 1 ringard. Bon, c'était quelque chose de très très classique. Il voulait faire vraiment du classicisme, alors que Matrix, c'est vraiment la révolution visuelle. Donc avoir ça un petit peu un mois avant, ça n'a pas forcément mis les gens dans un bon état d'esprit. Ça a malgré tout été un succès phénoménal. Et là, les fans se sont déchaînés. Il y a eu vraiment... une division des gens, beaucoup de gens trouvaient que c'était nul, que ça allait pas du tout.
Je crois que le problème c'est Jar Jar.
Alors il y a eu une cabale contre Jar Jar, je pense. Moi j'ai alors George Lucas s'est posé la question lui-même en fait. Donc c'était les débuts de l'internet, hein, 99, où on était aux États-Unis, tout le monde était à peu près équipé correctement. Et il a regardé les forums, il s'est baladé anonymement bien sûr. Il a pas dit salut c'est moi George, je veux savoir ce que vous pensez du film. Et il s'est aperçu d'une chose, c'est que bon déjà les gens lambda moyen aimait beaucoup le film. Les gens qui n'aimaient pas le film, c'était surtout les journalistes en place. Et par contre, la jeune génération, tous les blogueurs, etc., eux aimaient le film. Donc finalement, c'était la jeune génération qui aimait le film et les gens plus âgés qui l'aimaient moins. Et l'analyse qu'on peut avoir là-dessus, c'est que quand on a découvert Star Wars, moi personnellement j'avais 13 ans, on était souvent des enfants, des adolescents, les trois premiers, et là on essaie de retrouver le shoot, d'avoir le plaisir d'enfant, alors qu'on est adulte. Et c'est vrai que bah, on voit le film avec des yeux différents, et c'est plus aussi magique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les enfants qui ont découvert l'épisode 1 à l'époque ont adoré, je pense, quasiment autant que notre génération, enfin la mienne, quand on a vu l'épisode 4 à l'époque. Donc malgré tout, ça a été un succès phénoménal. Il n'a pas réussi à battre Titanic, mais il n'en était pas loin. Et voilà, donc après, il a pu se lancer dans la suite. Alors moi, ce que je pense du film, personnellement, c'est un film que j'aime énormément, qui est d'une beauté visuelle extraordinaire. On critique Jar Jar. Jar Jar, c'était vraiment un laboratoire pour George Lucas pour tester un personnage en image de synthèse complet. Donc techniquement, c'est parfaitement réussi. Bon, c'est un personnage...
C'était pour toucher peut-être un peu le public des enfants aussi.
Absolument, mais il ne faut pas oublier que Star Wars, c'est une série pour enfants. C'est un conte de fées. Donc c'est vraiment... Il y a des personnages un peu rigolos. Bon, il y a les robots, etc. Et là, il a voulu mettre un petit personnage amusant. Bon, bah, il s'est planté, mais la première fois, ça choque un peu. Quand on revoit le film, il n'est finalement pas si présent que ça. Et une petite anecdote là-dessus, c'est que quelques mois après la sortie du DVD... de Star Wars épisode 1, il y a une copie pirate qui circulait sur Internet, on était en 2000 à peu près, ça s'appelait Star Wars épisode 1, le montage fantôme. Et en fait, c'est un petit malin qui a remonté le film, c'est absolument magnifiquement fait, j'ai récupéré la copie bien sûr à l'époque, et il a viré Jar Jar. Donc le film, il a remonté, il a trouvé un peu plus, il a accéléré un peu le rythme, il en a fait un film qui est encore meilleur. Et il y a des rumeurs qui disent que c'est Kevin Smith, qui est un auteur de cinéma, de bande dessinée. Lui a toujours nié, mais on le soupçonne fortement d'avoir commis la chose. Voilà. En tout cas, bon, bah, le film existe, il a ses défauts peut-être, il a surtout beaucoup de qualités. Et ce qui s'est passé aussi, George Lucas nous avait prévenu à l'époque, il avait dit « Vous verrez, vous serez déçus avec les épisodes 1, 2, 3, parce que c'est pas forcément ce que vous attendrez, mais c'est ça l'histoire ». C'est un peu comme, je sais pas, si on raconte la jeunesse d'un grand personnage, on va dire au hasard de Napoléon, bah, s'il a une jeunesse qui n'est pas très passionnante, c'est la vraie histoire. Bah, dans l'esprit de George Lucas, c'était vraiment ça qui s'était passé. Et quand on creuse le film, c'est vraiment... on peut résumer, je pense, toute tout le film en une phrase. Je crois que c'est Amidala qui dit ça, au moment où le sénateur Palpatine prend le pouvoir et dit c'est comme ça que la démocratie disparaît sous un tonnerre d'applaudissements. Et c'est vraiment un parallèle avec la montée du nazisme, la montée de l'extrémisme, etc. C'est extrêmement politiquement pointu et fin. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est pas... Il y a moins d'action, de bataille, mais c'est vraiment un film particulièrement bien écrit, je pense, et qui restera. Et je pense que les prochaines générations le réhabiliteront.
Mais est-ce que le fait d'être passionné de Star Wars, on va dire pour tous les fans hein, qui se retrouvent dans Star Wars, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène lié au pouvoir dans tous ces aspects, que ce soit justement le pouvoir bienveillant Jedi et le pouvoir malfaisant Sith? Moi, je me demande si le fait d'aimer Star Wars n'est pas exclusivement lié à ça et pas uniquement au charme de l'aspect un peu Star Wars, un peu Heroic Fantasy, Space Opera.
C'est difficile de savoir pourquoi on aime Star Wars. C'est vrai qu'il y a, tout le monde y trouve un petit peu, c'est un peu une auberge espagnole, tout le monde y trouve ce qui y emmène. Il y a effectivement le côté la lutte contre le bien et le mal. Lucas avait énormément étudié les mythologies, les contes et légendes, et c'est un peu comme Tolkien l'avait fait en reprenant les légendes nordiques pour écrire son Seigneur des Anneaux. Lucas a beaucoup étudié ça. Il a raconté l'histoire. C'est une quête en fait, hein, c'est au moins une quête initiatique classique où il a rajouté un côté un petit peu mystique à travers la Force, qui a été alors démystifié un peu dans l'épisode 1. Ça a beaucoup déçu de savoir que c'était technologique, un peu avec ces fameux midi-chloréens, mais peu importe. Mais il a comme rajouté un côté mystique de l'autre côté, puisque Anakin est né d'Immaculée Conception. Et ça, il y a une personne avant lui qui avait eu ce privilège. Donc, d'ailleurs, les catholiques avaient un peu râlé à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste entre le mystique, le religieux et la fascination du bien, du mal. Et c'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir un personnage méchant iconique. Et Dark Vador, les enfants adorent se déguiser en Dark Vador. C'est un des personnages préférés. C'est quand même assez exceptionnel de réussir à les mauvais personnages aussi bien que les bons. Et donc, du coup, il y a cette fascination du bien et du mal. Autrefois, il y avait les cow-boys et les indiens. Bon, on choisissait un camp. Voilà, il y a clairement les camps définis du bien et du mal. Mais le mal, finalement, il est un peu cool. Et puis en plus, si on regarde le film jusqu'au bout, finalement, le mauvais, il redevient gentil à la fin.
Oui, et puis dans Retour du Jedi, il sauve son fils, quand même.
Absolument. Oui, non, c'est une quête avec la rédemption. Tout à fait, c'est une histoire parfaitement classique. C'est vrai que... Alors, pourquoi les gens aiment Star Wars, pour répondre à ta question? Moi, je me souviens, en 77, j'avais décidé de maîtriser la Force. C'était complètement magique, c'est à travers des objets, c'est... Il y a aussi... Pourquoi il y a une fascination? Parce que c'est un univers complètement autonome, crédible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit la plupart des films de science-fiction, on se dit, tiens, ça pas possible. Et finalement, c'est quelque chose qui se tient, les personnages, et on en parle comme des personnages existants. Et c'est assez rare. C'est même, en littérature, il y en a un petit peu... C'est ça qui est assez fascinant en fait, c'est qu'on en, ça fait partie de la vie courante et on vit avec eux avec des phrases que la force soit avec toi, c'en est une. Enfin, il y en a, j'ai un mauvais pressentiment, ça sent une autre. Enfin, et du coup, ça marque et c'est une des rares choses qui est au-delà du cinéma. Il y a assez peu de choses finalement qui deviennent des phénomènes qui vont bien au-delà de juste un film qu'on va avoir pour quelques euros ou quelques dollars.
Moi, je me souviens quand Star Wars est sorti et qu'on faisait la connaissance de Luke Skywalker, de ce que je me souviens encore aujourd'hui, c'est surtout le parallèle qu'on peut faire avec cette espèce de pouvoir de confiance en soi. Cette phrase que dit Yoda à Luke Skywalker, c'est « fais-le ou ne le fais pas, mais n'essaye pas ». Alors, si on pouvait reprendre justement le thème même de le propos même de Star Wars dans nos vies quotidiennes, on se rendrait compte que ce fameux pouvoir en soi, cette force en soi qu'on se souhaite, elle est quotidienne, on la vit vraiment. Il y a ce rapport qui est purement de l'ordre du sentiment et de l'individuel qu'on retrouve. C'est pour ça qu'il est intemporel et qu'il marchera toujours, ce film-là. Parce que Luke Skywalker, autant que Anakin Skywalker, c'est finalement un peu une part de nous tout le temps, d'une génération à l'autre. Il y a une génération plus de père à fils. Donc j'imagine que quand un père a envie d'aller voir Star Wars, il se souvient des premiers épisodes qu'il a vus et de cette confiance en plus qu'il transmet à son fils, et d'emmener voir son fils, quel que soit son âge, sa génération, voir Star Wars. Il y a aussi la magie des tout premiers Star Wars, comme on a pu les connaître dans les années 70-80, où finalement ce sont ces Star Wars-là qui font vraiment le mythe de Star Wars. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore toujours, tout simplement parce que le mythe, on essaye de le faire perdurer. Et en plus, on arrive à trouver maintenant l'intelligence d'en faire aussi... on va dire une marge de d'idées, avec Rogue One qui est une histoire qui se serait déroulée parmi l'épopée Star Wars.
De toute façon, on va en parler largement.
Moi, je trouve en tout cas que c'est très proche de l'humain dans ce sens-là. Voilà, et je pense que ça fonctionne aussi parce que dans la technique du scénario, avec ce qu'on appelle un petit peu le rideau aux fenêtres, on va dire l'emballage cadeau, on en a plein les yeux. C'est très très beau.
Oui, non, tout à fait, absolument. Ça a été novateur. Moi, je me souviens que la chose qui m'avait le plus épaté à l'époque, c'était les crédits qui défilaient dans l'espace. Je me disais, mais comment ils font ça? Les sabres laser, les vaisseaux spatiaux, c'était... Donc, on en prend plein les yeux. On a une histoire qui nous rassure. C'est à propos, comme tu le dis, à propos de la transmission du père vers le fils. C'est tout à fait flagrant. Et c'est vrai que dans la vie quotidienne, c'est souvent des phrases qu'on ressort. Le fais-le ou ne le fais pas, mais n'essaye pas, c'est... J'ai dû le dire plusieurs fois déjà à mes enfants et au travail, à des collègues. Ça, c'est...
Mais est-ce que tu ne fais pas comme Yoda et que tu parles à l'envers, comme on dit?
Ça m'arrive, oui.
Mais ça aussi, c'est rentré dans les mœurs. Ça aussi, même ne serait-ce que pour faire de l'humour entre collègues au bureau ou les choses comme ça, c'est rentré dans les mœurs. Il y a énormément de phrases qui sont échangées depuis des décennies et qui rappellent ces personnages-là.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le summum de la pop culture, en fait. Hein. Donc, c'est notre culture à nous. Hein. Quand on était jeunes, on nous expliquait qu'il fallait lire Balzac, Flaubert, Proust et compagnie. Et puis, nous, on voyait Star Wars, on lisait de la SF. Et c'est notre propre culture. Voilà, donc on transmet, effectivement, à nos enfants.
Mais est-ce que tu ne penses pas que Star Wars, c'est un peu une religion?
Alors, il y a une anecdote là-dessus, c'est que Francis Coppola, qui est un grand ami, qui est le mentor de George Lucas, donc on est encore une fois dans la transmission entre le père et le fils.
Il faut préciser qui est Francis Ford Coppola. Absolument. Et sa filmographie.
Tout à fait. Francis Coppola, il est connu pour des petits films qui s'appellent Le Parrain, Apocalypse Now, par exemple. Donc, ça a été le premier metteur en scène aux États-Unis qui a fait des films en sortant d'une école de cinéma. Autrefois, c'était que des petits vieux qui avaient été assistants, premier assistant, deuxième assistant, qui se lançaient dans la mise en scène. Lui est sorti d'une école de cinéma, il a été le père du nouvel Hollywood. Donc, effectivement, derrière le nouvel Hollywood, on trouve des gens comme De Palma, Spielberg, Martin Scorsese et compagnie. Donc, je disais, Coppola, en fait, au succès de Star Wars, il a dit à George, tu devrais monter une religion basée sur la force, tu vas faire fortune. Et George l'a pas fait, mais effectivement, il y a vraiment...
Mais il y a pensé, peut-être.
Non, je pense pas, George, assez terre à terre. Mais si on reparle un peu étymologie, on parlait d'Immaculée Conception tout à l'heure. Luke, qui a failli s'appeler Starkiller, le destructeur d'étoiles, s'est appelé Skywalker, celui qui marche dans le ciel. Encore une fois, l'autre, notre ami Jésus de l'Immaculée Conception, lui marchait sur l'eau. Donc, encore une fois, ça, c'est pas innocent. George a énormément travaillé sur le nom, tout un tas de références pour justement qu'on s'y retrouve. Et effectivement, c'est des personnages qui parlent aux gens. C'est pour ça qu'on les aime autant. C'est des personnages qui sont charismatiques. On retient les noms. C'est assez fort.
Mais l'influence de Flash Gordon?
Alors, Flash Gordon, c'est intéressant parce que George Lucas, en 60, il a fait un premier film qui s'appelait THX 1138 en 1971, qui est un film de science-fiction noir, pessimiste, qui finit pas forcément très bien, qui est un pur chef-d'œuvre, mais qui vraiment, il sortait de l'école, c'était vraiment le côté...
Un film d'étudiant.
Voilà, film d'étudiant, absolument. Donc il s'était planté, qui avait été produit par son ami Coppola, et donc il a fait... Il a fait derrière American Graffiti, qui est lui le film positif, la banane sur la musique, rock'n'roll, etc. Et quelle était la question déjà?
Ben que c'était il y a toute une histoire en
cours. Ah oui, Flash Gordon, voilà, c'est ça, exactement, pardon. Donc excuse-moi, American Graffiti, donc il a eu beaucoup d'argent, c'était un énorme succès. Il a rapporté plus de 75 millions de dollars à l'époque, ce qui était phénoménal, et donc il avait le rêve de réaliser Flash Gordon. Donc il s'est renseigné, il a voulu acheter les droits pour faire Flash Gordon, parce qu'il délirait sur le serial des années 30-40, des petits films qu'on voyait avant les grands films au cinéma. Et donc impossible d'acheter les droits puisque monsieur Dino De Laurentiis les avait sous la main et il n'a pas voulu les lâcher. Donc George Lucas a dit puisque c'est comme ça, je vais faire ma propre histoire. Et c'est arrivé une deuxième fois avec Spielberg. Quand Spielberg a voulu faire un James Bond, on lui a dit non, c'est pas pour vous James Bond. Et il a vu Lucas et Lucas a dit on va faire notre propre série, ce sera Jean James Bond et ce sera Indiana Jones.
Nous allons parler du deuxième épisode. Parce que là, on a parlé beaucoup du premier et de la genèse un peu de Star Wars.
Oui.
Donc, le second épisode où il y a beaucoup plus d'action.
Oui, absolument. Donc, l'épisode 2, bon là, c'était l'attaque des clones. C'était un petit peu la fête. Le premier était vraiment beaucoup dans la politique. Alors, ce qui est intéressant dans les épisodes 1, 2, 3, bon, le 2 étant la charnière, c'est que Lucas passe beaucoup de temps pour expliquer comment un petit garçon charmant devient Dark Vador. Et il lui faut plusieurs films pour ça, parce que on va tuer sa mère, il va avoir des problèmes amoureux dans l'épisode 3, et voilà. Donc il a vraiment voulu, à travers un film d'action, et c'est pas facile à écrire, parce que c'est toujours une écriture à plusieurs niveaux. Il raconte une histoire sur le long terme, il y a de l'action en parallèle, et donc la grande histoire d'Anakin Skywalker dans l'épisode 2.
Et avec un final époustouflant.
Et un final absolument phénoménal. S'il y a bien un film qui réconcilie à peu près les ronchons, c'est l'épisode 3, puisque là, on retrouve, il se connecte à l'épisode 4. C'est absolument, absolument
incroyable.
Magique, incroyable, ouais, avec des combats dans une planète de lave. C'est un festival d'action.
De couleurs.
Voilà, l'empereur qui se dévoile. Enfin, c'est la fête. Mais ça finit pas forcément très très bien, puisque ça finit... Voilà,
c'est quand même la naissance de Dark Vador.
Destruction de tous les Jedi, c'est assez terrible, puisque dans les épisodes 4, 5, 6, les Jedi, c'était une race quasiment disparue. Il n'en restait que un ou deux planqués. L'épisode 1, 2, 3, on les voit en action, ils se battent, on voit Yoda se battre, c'est complètement délirant.
Surtout dans le 2, oui.
Absolument, avec un combat avec le comte Dooku, interprété par Christopher Lee. Donc c'est... C'est très 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 spectaculaire et ça permet de boucler la boucle. Voilà. Donc Lucas, mission accomplie, il pouvait prendre sa retraite, il avait fini son histoire.
Mais il n'y avait pas trop de problèmes entre, je dirais, le 4, 5, 6 et le 1, 2, 3, au niveau de la technologie, au niveau de filmer le film, pour qu'il y ait vraiment une suite, qu'il n'y ait pas... que ça soit extrêmement différent la première saison et la deuxième saison, je dirais.
Oui, alors, effectivement, les épisodes 4, 5, 6... Donc les premiers tournés étaient tournés en analogique, c'était de la pellicule. Les effets spéciaux étaient analogiques, c'était mécanique, c'était voilà, des effets spéciaux visuels. Il n'y a pas d'image de synthèse. George est un grand amateur d'effets spéciaux, donc il s'est éclaté à refaire ses films en édition spéciale. Et puis c'est vrai qu'il a un petit peu forcé sur les effets spéciaux visuels numériques dans les épisodes 1, 2, 3. Il se rattrape un peu à la fin du 3, puisque là on retourne vraiment dans des décors en dur qu'on retrouve, on retrouve les corridors du début de l'épisode 4, donc la liaison est bien faite. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de numérique, mais qui se rattrape, parce que je pense qu'il a compris la leçon de Jar Jar dans l'épisode 1, qu'on revoit quand même un tout petit peu dans 2 et 3, mais voilà, il revient dans les technologies un peu plus anciennes. Par contre, il tourne au numérique. Voilà, l'épisode 1, à l'époque du 1, il avait dit « J'ai tourné une scène en numérique, je vous mets au défi de me dire laquelle. » Et l'épisode 2 et 3, après, il a pu les faire entièrement en numérique. Ça, c'est sa passion. Lui, c'est vraiment aller vite. Et rappelons-le, il est producteur, c'est son argent. Donc, s'il peut en économiser, ça l'arrangeait autant.
Voilà, et puis il faut dire que les fans demandent toujours le 4, 5, 6 sans les images de synthèse rajoutées.
Absolument. Alors ça, c'est encore une fois, c'est le côté un petit peu... Alors, certains diront révisionniste de George Lucas, c'est que bah, pour lui les dernières versions c'est celles qu'il a retouchées. Il voulait pas trop qu'on remette les anciennes, alors elles sont plus ou moins disponibles. Alors bon, si vous cherchez un peu sur le web, on les trouve en Blu-ray, les éditions en originales. Mais c'est, encore une fois, c'est il y a côté Madeleine de Proust, on veut revoir le film qu'on avait vu à l'époque. Et c'est vrai que bah, quand on nous met quelque chose qui a été modifié, on est un petit peu...
Qui n'importe pas non plus beaucoup, beaucoup de choses supplémentaires à la qualité du film.
On va dire qu'il se fait plaisir. Par contre, dans la série, c'est son œuvre. Il fait ce qu'il veut avec. Il y a des peintres de la Renaissance qui, après avoir vendu leurs tableaux, allaient chez les gens pour faire des retouches. Donc c'est pas nouveau. Mmh. Et c'est son œuvre. Bon, après, un jour ou l'autre, de toute façon, maintenant, Disney ayant racheté Lucasfilm en 2012, ça ressortira en grande pompe, mais c'est vrai que...
Mais ils l'ont promis, hein. Disney a promis de ressortir le 4-5-6 sans les images du synthèse.
Alors, ils étaient sortis déjà en DVD basse qualité dans les années 2000, donc il y a des versions. Par contre, on ne les a pas en super qualité, 2K ou 4K Blu-ray, mais ça viendra.
Voilà, musique de Star Wars 1.
que je fasse. Je le fais pour te protéger. Tu le sais?
Oui, je le sais.
Notre rébellion, c'est tout ce qu'il reste pour faire reculer l'Empire. Nous pensons que tu peux nous aider.
Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois?
C'est quoi ces questions?
Il semblerait qu'il joue un rôle capital dans la mise en œuvre d'une arme surpuissante.
Si c'est mon père qui l'a conçu, il faut qu'on le retrouve.
D'accord. De combien d'hommes on a besoin?
Il demande un nom de code.
C'est Rogue. Rogue One.
La force de frappe dont il est question est sans limite.
Si l'Empire dispose d'une telle puissance de feu, quelle chance nous reste-t-il?
Il nous reste l'espoir. L'espoir est la base de la rébellion. Ne s'attendent pas à nous voir.
Vivez pleinement ce moment. La force est puissante.
10 hommes leur paraîtront une centaine.
On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non?
Sauve la rébellion! Sauve notre rêve!
En compagnie de Patrick, dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, on continue avec Star Wars, évidemment, et l'épisode 7, Christian.
Voilà, donc entre-temps, ce qui s'est passé, donc le dernier film de l'épisode 3 2005, donc George Lucas a continué ses sociétés, et puis bon, il commençait à devenir âgé, et il a décidé en octobre 2012 de revendre sa société, Lucasfilm, une société avec des oreilles, là, Mickey Disney, qui, bon, il aura vendu 4 milliards de dollars. Bon, ça aura pu être 5, ça aura pu être 12, à mon avis, Disney, c'est une bonne affaire. Et ça a permis déjà à George de partir à la retraite confortablement, et puis Disney de pouvoir profiter de toutes les licences. Les premières décisions de Disney qui a été quasi immédiate, ça a été de produire des suites, donc l'épisode 7, qui est sorti donc l'année dernière. Alors là, c'était la première fois qu'on avait un film de Star Wars qui n'était pas contrôlé par George Lucas. Il avait proposé un certain nombre d'idées pour le scénario qui n'ont pas été retenues. Donc on a pris M. J.J. Abrams, qui avait déjà fait du Star Trek, qui avait fait Lost, tout un tas de trucs. Et donc il nous a réalisé un épisode 7 à sa sauce, que je trouve personnellement particulièrement insipide. J'ai vraiment été déçu. Il y a un quart d'heure, 20 minutes à sauver du truc. C'est un pur remake de l'épisode 4. Ils nous refont le coup de l'étoile de la mort, de la quête. Est-ce que si c'est une fille bon,
c'est... Tu penses que J.J. Abrams a eu peur de décevoir les fans?
Alors, je pense qu'ils étaient complètement paralysés à la hauteur du challenge. Donc, ils avaient récupéré un scénariste, Lawrence Kasdan, qui avait déjà fait le scénario de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi en partie. Donc, ils avaient pris quelqu'un, mais ils ne savaient pas quoi raconter. Je pense que la tâche était trop haute. Donc, ils se sont retrouvés à essayer de faire du neuf avec du vieux. Donc ça plaît plus ou moins bien, et les personnages sont assez ratés, notamment les méchants. S'il y a bien quelque chose où George était très très fort, c'était créer des méchants. Dark Vador, l'Empereur, Dark Maul, Grievous dans l'épisode 2, le Comte Dooku, etc. Et là, Kylo Ren, j'avoue que quand il a retiré son masque, ça a plutôt eu l'éclat de rire dans la salle. C'était pas terrible.
Il faisait pas très peur. Hein.
Absolument ridicule.
Il y a un déficit de films d'horreur. Là.
Et je me souviens, quand on a appris que c'était le fils d'Han Solo et de la princesse Leia, le commentaire que j'ai eu, c'est qu'il a pas hérité de la beauté de ses parents. Hein. Donc, Non, c'était assez ridicule. Ils nous ont un petit peu raté complètement la mort de Han Solo. C'est vraiment, enfin, c'était une très très grosse déception pour moi. Et d'où finalement les inquiétudes que j'avais sur Rogue One. Est-ce que Disney allait vraiment complètement me saccager ma saga préférée?
Mais bon, Han Solo, c'est pas une surprise qu'il meure, parce que déjà dans le Retour du Jedi, il y avait des bruits qui couraient, qui en avaient marre de Star Wars et qui voulaient mettre fin.
Absolument. C'est même, ça date d'avant ça, c'est qu'à l'époque, à la fin de l'Empire Contre-Attaque, il a dit « Attends, tu peux pas me tuer parce que j'ai pas envie de faire la suite. » Et George a dit « Non, je te tue pas. » Donc c'est pour ça qu'il l'a mis dans la carbonite, en fait. C'est pour ne pas le garder. Il se dit « Bon, si vraiment il me fait un coup de calcaire, je le laisserai dans la carbonite dans l'épisode 6. » Et du coup, après, Han Solo a encore une fois insisté pour mourir dans le Retour du Jedi. Refus de notre ami George Lucas, donc ça y est, il a enfin eu gain de cause dans l'épisode 7 où il meurt d'une façon tout à fait ridicule.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on parle de Rogue One parce que c'est quand même la sortie aujourd'hui du film. Tu vas nous raconter un peu comment s'est créé cet épisode qu'on va dire 3,5.
Voilà, alors donc, Disney a décidé de faire un film tous les 2 ans. De Star Wars, donc l'épisode 7 c'était l'année dernière, l'épisode 8 ce sera l'année prochaine, et puis l'épisode 9 dans 3 ans, et puis bon bah il faut bien rembourser les dettes, hein. Ils ont acheté la compagnie 4 milliards, donc ils ont décidé de produire un film indépendant toutes les autres années. Donc cette année on a Rogue One, et on aura un film dans 2 ans, et puis encore dans 4 ans. Donc là, Rogue One, c'est une histoire indépendante, donc ça s'appelle A Star Wars Story, c'est une nouvelle série d'histoires, donc faut pas... C'est un film qui se tient tout seul, il n'y aura pas de Rogue Two, hein. C'est Rogue One, c'est le nom de l'escadron qui sont les héros du film. Et donc dans la saga, ça se situe juste avant le début de l'épisode 4. Donc en fait, quand vous voyez l'épisode 4, il y a des crédits qui défilent, qui expliquent qu'il y a des gens qui sont morts pour voiler les plans de l'étoile de la mort... Ça a été très très dur, et ben c'est justement cette histoire-là. Donc en fait, on va voir. C'est, encore une fois, c'est l'histoire de quelqu'un d'ordinaire qui va avoir un destin extraordinaire, comme Luke Skywalker. Cette fois-ci, c'est une jeune femme qui s'appelle Jean Erso dans le film. Et donc ça va être son destin pour réussir à voler ses plans. Donc on connaît l'histoire, hein. C'est comment on fait pour voler les plans, et c'est les fameux plans que Dark Vador recherche dans les toutes premières scènes de l'épisode 4 de Star Wars.
De l'étoile noire.
Absolument, les plans de l'étoile noire, et surtout le défaut, comment peut-on faire pour détruire l'étoile noire? C'est ça qui est intéressant, puisque c'est, je rappelle que c'est quand même un petit outil qui permet de détruire une planète.
Et les anecdotes sur Rogue One?
Alors pourquoi Rogue One? Pourquoi le film s'appelle Rogue One? Ça, c'est intéressant. Gareth Edwards, le metteur en scène, qui avait fait des films assez intéressants, il a fait Monsters il y a quelques années, il a fait le Godzilla il y a 2 ans, donc c'est quelqu'un de très très intéressant. Donc il expliquait pourquoi Rogue One. D'abord, Rogue, ça veut dire un peu un voyou, une racaille, c'est un mot qui a pas mal de définitions. On associait beaucoup d'ailleurs Han Solo à ce mot dans la première trilogie. Et donc ça va être le nom de l'escadron qui va réussir à voler les plans, mais c'est aussi quelqu'un d'un petit peu de côté Rogue. Donc finalement, par rapport à la saga de Star Wars, c'est le premier film qui est sur le côté, donc Rogue One. Voilà, donc il y a plusieurs explications. C'est aussi le personnage principal qui est aussi quelqu'un d'un petit peu marginal. Donc voilà, c'est finalement un film qui est très très bien titré, même si le titre il dit pas grand chose au grand public. Ça risque d'être un petit peu dur à vendre, mais voilà, bon, avec la marque Star Wars en dessous, je pense que ça devrait pas être trop difficile finalement.
Mais comme le Star Wars 7 a pas eu un accueil extraordinaire, on va dire, de la part des journalistes, hein, et d'une certaine partie du public, est-ce qu'il y a pas mal de gens qui ont voulu décrier Rogue One avec pas mal de news qui ont traîné ces derniers temps?
Rogue One, on était inquiet. J'avoue que petit budget, beaucoup plus petit que l'épisode 7. Bon, une bande-annonce, voilà. Bon, il y avait un ninja dans la bande-annonce. Je dis, bon, il y a un ninja dans Star Wars maintenant, bon, pourquoi pas.
Il y a très connu, hein, Donnie Yen.
Absolument, c'est une méga star asiatique.
Il y a bien eu des chaussures dans les tout premiers épisodes dans l'espace, alors il peut y avoir un ninja dans le dernier Rogue One.
Hein. Absolument. Et donc, il y a eu aussi des rumeurs comme quoi la personne qui devait faire de la musique était partie, c'était Alexandre Desplat, donc un autre français compositeur de musique hollywoodien. En fait, lui, il est parti parce qu'il était sous contrat, il y a eu des décalages dans le tournage, et puis il est parti faire la musique d'un petit film qui va s'appeler Valérian, réalisé par un jeune homme qui s'appelle Luc Besson. Donc voilà.
Pas très connu.
Pas très connu. Du coup, ils ont récupéré le gars qui fait la musique des films d'Abrahams et d'ailleurs de Gareth Edwards. Donc il y a eu ça, il y a eu des plans qui ont été retournés. La rumeur, c'était que Disney trouvait le film trop sombre, qu'il voulait l'éclaircir. Donc voilà, c'est vrai qu'on partait. Bon, comme personnellement, j'attendais strictement rien après la catastrophe de l'épisode 7, j'y allais, on va voir.
Quand même, la personne qui a retouché certaines scènes a été payée 5 millions de dollars. Les gens passaient des meilleurs. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de nouvelles. Néfaste, je dirais, pour essayer de porter atteinte au nouveau Star Wars.
Bah, disons que c'est l'épisode 7 avait divisé le public. Donc je pense que le niveau d'attente de l'épisode 7 était tellement énorme aussi. Comme on a vu l'attente de l'épisode 1 à l'époque, je rappelle qu'il y a eu quand même 16 ans entre l'épisode 6 et l'épisode 1. Donc là, c'était depuis 2005, ça faisait effectivement une dizaine d'années. Donc là, finalement, le niveau d'attente est moindre. On attendait finalement pas forcément quelque chose d'exceptionnel.
Voilà, et on va vous raconter tout ça après un petit encart musical. Maestro. Compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Star Wars avec Christian Lucas qui est notre invité, grand spécialiste en la matière et d'autres choses aussi. Rogue One, la critique.
Alors Rogue One, donc je partais personnellement, j'attendais pas énormément, la bande-annonce m'avait pas particulièrement emballé et puis dès les premières images. J'avoue que dès les premières images de l'épisode 7, j'avais peur que là, vraiment, j'ai été emballé. C'est vraiment un film absolument à voir, exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est que l'épisode 7, c'est un film qui avait divisé. Et là, je pense que Rogue One, c'est un film qui va rassembler. C'est un film qui se rapproche de tout ce qu'on aime, c'est-à-dire le début de Star Wars. On colle au visuel, à l'imagerie, on va voir tout ce qu'on aime, des X-Wing, on va voir des AT-AT qu'on avait vu dans l'Empire Contre-Attaque, on voit des Stormtroopers, on voit Dark Vador, enfin c'est vraiment, c'est la fête de tout ce qu'on aime de Star Wars avec une super histoire, vraiment, qu'on connaît finalement, puisqu'on sait que les plans, ils ont bien dû finir par les voler, puisqu'ils les ont dans l'épisode 4, mais voilà, c'est une histoire absolument passionnante, magnifiquement réalisée, avec un style. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un style quasi documentaire, très très réaliste. Gareth Edwards, s'en cache pas. Hein. Il dit que il voulait avoir un côté presque caméra au point, filmer ce qui se passait. Et c'est un film de guerre. C'est un film de guerre. Et moi, j'adore les boucles qui se referment. Et en 1975, par là, 74, George Lucas avait participé à un scénario d'un film qui s'appelait Apocalypse Now. Et George voulait absolument le réaliser, c'était son bébé. Et donc quand il s'est embarqué dans l'aventure Star Wars à partir de 76, bah Coppola en a eu marre d'attendre, il est parti aux Philippines faire son film sans lui. Lucas lui en a beaucoup voulu, et il a toujours voulu faire ce film qui était un petit peu, effectivement, un peu le look un peu documentaire. Donc finalement maintenant, avec un Rogue One qui arrive, on retrouve l'esprit d'Apocalypse Now, un vrai film de guerre. C'est un film de guerre comme il y a eu le Soldat Ryan, Apocalypse Now, c'est... Ça se passe dans l'espace, dans une lointaine galaxie dans le passé, mais c'est un film de guerre beaucoup plus qu'un film de science-fiction, en fait, finalement.
Oui, et puis il y a beaucoup d'éléments dans le film qui font plaisir aux fans. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors on va pas révéler les petits secrets du
film.
Oui,
il faut pas spoiler non plus. Non, j'ai pas vu le film.
Mais de toute façon, c'est partout sur Facebook.
S'il vous plaît. Non, mais c'est parce que moi, j'essaie de pas regarder. Je vais aller le voir.
Après, tu nous en reparles. Hein, oui. Quand on ira le voir. Le film est vraiment excellent et on a tous passé un excellent moment. Bon, moi, je suis pas un fan de la 3D. Ça apporte un peu de profondeur aux images. Mais le film est vraiment de haut niveau et qui va faire plaisir à tous les fans.
Oui, tout à fait. Alors moi, ce qui m'est venu à l'esprit en sortant du film, c'est que autant ils étaient complètement bloqués avec l'épisode 7, ils étaient angoissés à l'idée de faire quelque chose. Là, c'est, pour reprendre un terme politique connu, c'est un Star Wars décomplexé. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont lâchés. Ils ont dit, attends, on va faire ce qu'on veut, on a une histoire, on connaît le début, on connaît la fin, on sait comment ça finit, et on va se lâcher. On va inventer des nouveaux personnages, on va faire plaisir, on va faire des petites apparitions qui vont faire des petits clins d'œil pour les fans où ils vont être super contents. Et du coup, on n'a pas cette pression de qu'est-ce que va en penser George Lucas, qu'est-ce que vont en penser les fans. Ils se sont fait leur film de guerre, ils se sont fait plaisir. À l'arrivée, c'est un super film et apparemment George Lucas l'a vu.
Absolument.
Alors, il y a deux petites histoires sur George Lucas, sur Rogue One. La première, c'est que il est arrivé un jour il était invité sur le tournage, maintenant, même s'il ne fait plus rien, hein, il est juste en visiteur. Et puis il a commencé à tout critiquer, hein, mais ça c'est pas bon, ça ressemble pas à Star Wars, ça. Et le metteur en scène Garateur, c'était livide, vraiment liquide. Et George Lucas s'est marré, il a dit que c'était une blague, quoi. Donc voilà. C'est un peu son sens de l'humour à froid. Et le deuxième, il lui a juste dit une phrase, il lui a dit en gros, don't screw it up, ça veut dire tu le foires pas, quoi. Parce que c'est quand même un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Et George a annoncé qu'il avait adoré le film, il l'a vu en première il y a quelques jours et qu'il a absolument adoré le film.
Et le réalisateur était heureux. Il l'a dit sur Facebook, sur pas mal d'endroits de la presse, que pour lui c'était une grande reconnaissance que M. George Lucas avait adoré le film.
Bah, on touche à la saga, donc c'est vrai qu'le créateur est encore en vie. Peter Jackson n'a pas eu l'occasion d'avoir l'avis de Tolkien sur ses Seigneurs des Anneaux, mais là Gareth Edwards a l'occasion d'avoir l'avis de George sur son film. Et c'est vrai que le George Lucas qui avait soi-disant apprécié l'épisode 7, c'était très marketing, que là, ça a l'air beaucoup plus sincère.
Voilà. Et puis, après un petit intermède musical, nous allons parler de tout ce qui tourne autour de Star Wars, les livres, les jouets, tout ce que vous désirez, les jeux, en fait tout, quoi, sur Star Wars. Voilà. Maestro. Ok, voilà, nous allons aborder tous les collectors autour de Star Wars, et puis comme Noël approche, ça pourrait faire des très jolis cadeaux. On va commencer par les séries.
Oui, alors en fait, Star Wars, c'est beaucoup plus que maintenant 8 films. Il y a eu énormément de produits, il y a eu des comics, des romans, alors on peut parler des séries, effectivement. Les séries en cours, moi je recommande fortement une série télé qui passe sur le câble, ça passe sur Disney XD, puis je crois France 4 ou France 5, ça s'appelle Star Wars Rebels. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a manifestement la force, et c'est toutes ses aventures. On en est à la 3e saison, c'est plutôt orienté enfant, donc vraiment, ça peut se regarder à partir de 5-6 ans, mais j'avoue que les adultes vont y trouver un certain plaisir. C'est de l'animation image de synthèse qui est tout à fait remarquable, et c'est surtout particulièrement bien fait dans l'esprit de Star Wars. C'est ça, et en fait tout de suite ça se sent si c'est du vrai ou du faux. Quand on voit des fan films, par exemple des films faits par les fans, on sent que ça sonne faux, et là on voit vraiment qu'il y a une recherche pour que ça sonne vrai, tout comme on a vu la série télé en image de synthèse Star Wars Clone Wars. Il y a eu presque 6 saisons, donc c'était ce qui se passait entre l'épisode 2 et l'épisode 3. C'était absolument remarquable, avec tout un tas de personnages. Et d'ailleurs, fait unique, un des personnages qui apparaissait dans Star Wars Clone Wars est un des personnages importants de Rogue One.
Ah, lequel?
Donc, Saw Gerrera. C'est le gros black qui a fait la guerre des clones.
D'accord, oui.
Qu'est-ce qu'il en est de cette fameuse série live qui est prévue depuis pas mal d'années sur Star Wars? Tu as des nouvelles là-dessus?
Alors, des nouvelles fraîches, non. En fait, entre 2005 et 2010, quand Lucas donc, cherchait à continuer Star Wars après sa revanche des Sith, son épisode 3, il a mis en place il a eu l'idée d'avoir une série télé qui devait se passer entre l'épisode 3 et 4. De mémoire, avec des personnages secondaires, où il y aurait bien sûr eu des apparitions des personnages principaux, mais c'était vraiment une aventure parallèle. Apparemment, il y a une centaine d'épisodes qui ont été écrits, des centaines de scénarios ou de drafts. Lucasfilm en 2012 à Disney, ça appartient à Disney. Donc, j'espère qu'un jour ils vont nous le ressortir, parce que c'est quand même du pur jus Star Wars officiel tamponné George. Donc, pour l'instant, voilà.
Bon, ouais. On va parler des Ewoks.
Les Ewoks, ah oui, absolument. Donc, le spin-off de Rogue One, c'est pas une première. Il y a déjà eu un téléfilm mémorable en 78 avec des Wookiees. Et donc, juste après le retour de Jedi, il fallait continuer à faire un peu d'argent chez Lucasfilm. Donc, il y a eu deux téléfilms produits par George. L'aventure des Ewoks et puis l'autre s'appelait La bataille d'Endor. Donc c'est tout à fait charmant, tout à fait mignon. Il y a même le premier sorti au cinéma en France. Je l'ai vu en salle en France. Bon, c'est du produit dérivé. Et en fait, Lucasfilm a toujours travaillé sur des produits dérivés. Il y a eu des comics dès 77. Il y a eu le comics qui résumait, qui racontait le premier film. Et après, ils ont fait la suite. Il y a eu plus d'une centaine d'épisodes. Donc il y a eu des comics, des romans, des jeux vidéo. Il y a même un projet qui est absolument incroyable. Dans les années 90, ça s'appelait L'ombre de l'Empire, Shadow of the Empire. Et là, en fait, ils ont fait un projet où il y avait tous les produits dérivés, sauf le film. Donc il y avait le roman, il y avait la bande dessinée, il y avait le jeu vidéo, il y avait le bouquin Art of Making Of, il y a même eu la musique. Donc il y a un mec qui s'est tapé la musique, il a composé la musique d'un truc qui n'existe pas. Et donc on peut le découvrir en roman ou en bande dessinée. Donc c'est absolument passionnant. D'ailleurs, ça se passe entre l'épisode 5 et 6. C'est une sorte de chasseur de primes avec Boba Fett notamment. Donc c'est tout à fait sympa. Mais donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau de faire des spin-offs. Donc là, Rogue One, ça étonne pas le fan d'avoir un film en plus qui sort de la saga classique. Des bandes dessinées, il y en a eu plusieurs centaines aussi.
Il faut pas oublier qu'il y a tout le merchandising derrière. Et donc en faisant des films ou des films qui sont autour de la saga, ça permet de vendre de nouveau des jouets, puisque c'est ce qui rapporte le plus d'argent.
Absolument. D'ailleurs, je vous propose un petit jeu. Vous allez dans un Toys R Us et vous regardez tout ce qui appartient à Disney. Donc vous allez voir des figurines Marvel, vous allez voir avec Spider-Man, vous allez voir des figurines Star Wars, des figurines Mickey, etc. Et on a l'impression que Toys R Us, c'est une boutique Disney. Ils ont racheté tout ce qui fait vendre des jouets. Alors des petits bonhommes, il y en a eu des centaines, des jouets. Alors J'entends parfois, oui, il a créé tel personnage pour vendre un jouet. Mais en fait, quel que soit le personnage créé, il y aura un jouet. Hmm. Donc il fait pas les Jar Jar, il l'a pas fait pour vendre des jouets. Il vendrait un truc en forme de boîte de conserve. Les gamins achèteraient des boîtes de conserve, quoi. Donc c'est d'ailleurs R2D2 d'ailleurs au passage. Donc c'est complètement délirant et c'est le seul qui arrive à faire ça. Paradoxalement, Indiana Jones, on n'a jamais vendu de jouets. Ça a pas marché. Hmm. Les jouets Harry Potter, il y en a quasiment pas. Donc c'est une franchise où les gamins veulent des jouets. Il y a des franchises où les gamins ne veulent pas jouer. Ça, c'est intemporel et ça continue. Il y a eu. C'est un nombre. C'est innombrable le nombre de produits dérivés. C'est un océan de
c'est
produits.
C'est aussi pour les petits et pour les grands.
Oui, il y a même de l'électroménager en forme de. Oui, j'ai vu une espèce de machine à faire des gaufres en forme de tête de Dark Vador.
Dark Vador, ouais, voilà.
Il y a plein de choses. Voilà. Au niveau de la nourriture autour de Star Wars, de toute façon.
J'ai vu un grille-pain en forme d'air de D2.
Voilà, un peu de musique. Compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, on continue sur tous les dérivés de Star Wars et en particulier les livres. Christian ?
Oui, alors je ne saurais trop vous conseiller deux magnifiques ouvrages français, écrits par des Français, absolument phénoménaux. Le premier, c'est sur l'aventure du Lucasfilm Magazine. Dans les années 90-2000, il y a eu un magazine dédié à Lucasfilm et à Star Wars en particulier. Patrice Giraud, l'auteur, a donc publié un livre qui est sorti il y a quelques semaines, qu'on trouve partout, hein, toutes les Fnac et compagnie, qui est vraiment l'histoire des fans de Star Wars en France. Donc c'est vraiment un livre à ne pas manquer.
Il faut préciser qu'à l'intérieur, il y avait des petits fascicules qui sortaient, je sais pas quelle était la cadence de la sortie de ces Lucasfilm, c'était tous les 3 mois ou je sais plus, parce qu'il a réuni de tout ce qu'il avait sorti durant des années.
Oui, tout à fait. La fréquence a changé avec le temps, mais effectivement, c'est un peu un condensé des meilleurs articles, et puis raconter l'histoire de tout ce qui s'est passé à l'époque, les fans hardcore de Star Wars. Et alors, il y a un autre livre qui, lui, alors c'est un livre d'art. Donc ça, vraiment, c'est le plus beau livre que j'ai vu cette année. Ça s'appelle Star Wars, les objets cultes. Donc il y a un jeune homme qui s'appelle Arnaud Grimbert, qui a collectionné, réuni tout un tas d'objets ayant servi dans la saga. Donc ce sont ce qu'on appelle des props, hein. Donc c'est pas des objets qu'on achète dans les magasins, c'est des objets qui ont servi dans les tournages. Donc il a des costumes de Dark Vador, des sabres laser, des vaisseaux spatiaux, etc. Et donc pour la première fois, donc c'est quelqu'un qui fait des expositions régulièrement de ces objets, qui les prête pour des expositions. Et là, il a réuni les plus beaux objets de Star Wars, les objets cultes, dans un livre. C'est magnifiquement illustré. Les photos sont splendides, les objets, ça fait à chaque page vous rêvez, même si vous êtes pas complètement fan de Star Wars, c'est juste absolument splendide à voir. Et les textes sont aussi de Patrice Giraud, qui est le grand spécialiste de Star Wars en France.
Voilà, et je sais qu'il va sur les tournages des films et tout, donc il est vraiment très très apprécié de George Lucas et maintenant de Disney, tout simplement. De toute façon, des bouquins sur Star Wars, il y en a pas mal, hein. Et il y a les jeux sur toutes les consoles. Star Wars, vous pouvez pas y échapper.
Tout à fait. Je vous conseillerais, par contre, ça va sortir dans 2 jours, c'est la musique de Rogue One, qui n'est pas de John Williams, mais qui est tout à fait remarquable. Et je vous invite à vous procurer le CD rapidement.
Voilà. Un petit intermède. Maestro.
Authorities here are saying that there's been an uncontrolled release of radiation from the Three Mile Island nuclear facility, but details are, at this moment, still unclear. A spokesman for the Pennsylvania Emergency Management Agency said the level of radiation is substantial enough to cause concern, but not substantial enough to order an immediate evacuation of the area. A four-county region, however, has been...
Voilà, on continue sur Star Wars. Alors, la musique, c'était Star Wars Galactic Funk. J'espère que vous avez dansé comme nous dans le studio, la grande période disco.
Et oui, parce que 77, c'est l'année de Star Wars, mais l'année du disco. Et donc, c'est Meco Monardo, un grand producteur qui avait produit notamment des musiques pour Gloria Gaynor, de mémoire, qui avait décidé d'adapter en disco Star Wars. Et à l'époque, les fans n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent pour acheter. Donc, ça a été deux semaines numéro un des ventes de disques aux États-Unis.
Nous allons parler de l'avenir.
L'avenir, alors avec Disney, on est sûr qu'on va avoir un bel avenir, en tout cas en matière de quantité avec Star Wars. Donc l'année prochaine, comme je vous le disais, c'est l'épisode 8. La suite donc du Réveil de la Force. Alors une news aujourd'hui, apparemment Disney aurait déposé un titre qui s'appelle Les Forces du Destin. Alors ils ont déposé la marque. Donc on se demande si c'est pas le titre du prochain film, enfin à suivre. Alors c'est un film, la bonne nouvelle pour moi c'est que c'est plus J.J. Abrams qui va réaliser, il est parti, mais bon débarras. Donc là c'est un
tu
monsieur...
Toi,
oui, non, moi je l'adore, oui, là, ça, déjà il pourrit ma vie avec Lost pendant des années, donc là c'est bon, là, j'ai... comme ça. Donc là c'est un monsieur qui s'appelle Rian Johnson, qui avait fait un film en 2012 qui s'appelait Looper, hein, qui était pas mal, je crois qu'il y avait Bruce Willis là-dedans.
Il y avait Bruce Willis,
tout à fait. Et Gordon Levitt.
Voilà. Ça remontait dans le temps, c'est ça je crois l'histoire, allez.
Oui, c'est ça, une sorte de voyage dans le temps. Mmh. Et bon, là, tout le cast revient. Et c'est aussi un monsieur qui avait fait des épisodes de Breaking Bad. Donc voilà. Bon. Ça a l'air. Bon, après, de toute façon, le metteur en scène, c'est surtout l'histoire qui va nous intéresser. Bon, on connaît pas l'histoire. Et puis, même si c'était écrit quelque part, je voudrais pas la lire, je veux la découvrir. On sait que tout le cast revient. Tout le cast revient. Et là, normalement, le film sera quand même très axé sur Luke Skywalker. Parce que la très grosse frustration de l'épisode 16, c'est de l'avoir vu 3 secondes. Donc voilà.
De toute façon, ça se termine. Ça commence ou là, ça se termine.
Voilà, absolument. Alors, en théorie, parce que normalement, il y a toujours 3 ans entre chaque film. Là, ce sera un peu la surprise. Donc ça, c'est
épisode 8,
prévu 15 décembre 2017. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on l'a toujours 2 jours avant, puisque les films sortent le mercredi en France et le vendredi aux États-Unis. Donc là, les Américains, ils attendent encore Rogue One. Ils l'auront que vendredi.
Mais certains font le voyage.
À l'époque de l'épisode 7, il l'avait fait, là, je pense que... Oui.
Ça les a calmés.
Oui.
Alors, l'épisode 9 ?
Alors, après, il y aura l'épisode 9, donc là, on sait pas grand-chose du tout. Si, par contre, la très bonne nouvelle de l'épisode 9, c'est que le réalisateur, c'est M. Colin Trevorrow, et M. Colin Trevorrow, il vous a fait très très peur avec Jurassic World, il y a 2 ans, l'année dernière. Donc, voilà, donc il a pris le metteur en scène de Jurassic World pour faire le dernier... Dernier épisode de la 3e trilogie. Donc voilà, pourquoi pas.
Bon, de toute façon, avec Disney, ça va être non-stop, à mon avis.
Tout à fait. Et alors, donc, en attendant l'épisode 8, donc l'épisode 8, ce sera l'année prochaine, et entre le 8 et le 9, on aura un autre épisode de la saga A Star Wars Story, une histoire de Star Wars, où là, ça va être consacré à Han Solo, personnage emblématique et iconique de la saga, même si finalement. Quand on y pense, il n'est pas très important, il n'a pas la force, il fait pas, voilà, c'est pas lui le héros de l'histoire, mais c'est quand même lui que tous les hommes voulaient ressembler quand on sortait du film. C'est un personnage, voilà, il a un côté voyou, rebelle, rogue, comme dirait l'autre. Donc là, un film sur sa jeunesse. On sait que Chewbacca reviendra, bien sûr, et on sait que Lando Calrissian, qui était dans les épisodes 5 et 6, sera là aussi, puisque il était connu pour être un ami d'Han Solo. Il a même gagné le Millennium Falcon ou un jeu de hasard de mémoire. Donc voilà, donc ça peut être très intéressant. Alors le metteur en scène pour ce film, ça va être des gens qui s'appellent Phil Lord et Chris Miller. Je sais pas, j'ai pas trop regardé ce qu'ils avaient fait. Ils ont aussi, je crois qu'il y en a qui a bossé sur le film Lego, le Lego Movie, et sur 21 Jump Street. Voilà.
Et quel est l'acteur qui va incarner Han Solo?
Alors l'acteur s'appelle Alden Ehrenreich. Donc,
Qu'on a déjà vu, je connais pas.
J'avoue que je crois que oui, il a dû faire quelques petits trucs, mais c'est encore une fois, ils ont voulu sortir le mec un peu.
Ouais, et puis ça revient moins cher aussi.
Voilà, et puis donc c'est Donald Glover, je crois que c'est le fils d'ailleurs de Danny Glover,
absolument.
Qui va faire Lando Calrissian.
Tout à fait.
Donc là, je pense que ça va être très sympathique. Ça peut être que sympathique, c'est Han Solo, on adore.
Il faut quand même préciser qu'Han Solo a touché une fortune sur le Star Wars 7. Oui, pour pouvoir jouer, parce qu'il ne voulait pas jouer, évidemment.
Ça se voit
sur
à
les royalties.
Ça se voit à l'écran. Et puis, il y avait un projet pour le 2020, donc, d'un troisième Star Wars Story qui, là, devait être consacré à Boba Fett. Encore une fois, personnage iconique de la saga, qui apparaît, qu'on ne découvre pas d'ailleurs dans l'Empire Contre-Attaque, on le découvre dans un téléfilm qui s'appelle Au temps de la guerre des étoiles, Star Wars Holiday Special, qui est une catastrophe monstrueuse, où on voit la famille de Chewbacca, enfin, c'est absolument ridicule. Et il y a un moment donné, il y a le fils de Chewbacca qui regarde la télé, il regarde un dessin animé et il voit Boba Fett en dessin animé. Donc voilà, donc là, Boba Fett, le personnage iconique qui apparaît que quelques minutes finalement dans la saga, mais que tout le monde aime. Donc il y avait ce projet de faire le film sur Boba Fett. Et ils avaient donc embauché un metteur en scène pour faire ça. C'est le monsieur qui avait fait Chronicle, un film avec des gamins qui avaient des super pouvoirs, qui était très très sympa. Il s'appelle Josh Trank. Donc il devait même être invité à la Star Wars Convention, et puis parce qu'il allait sortir son nouveau film. Et puis son nouveau film, en fait, c'était Fantastic Four. Et si vous avez vu Fantastic Four, vous comprenez pourquoi on lui a retiré le projet. C'est juste certainement le film de super-héros le plus pourri des 20 dernières années. Donc voilà, donc là on ne sait pas si le projet Boba Fett est toujours maintenu. On espère qu'ils vont trouver, parce qu'il faut...
Il faut trouver le metteur en scène.
Il faut l'histoire, etc. Quoi.
C'est un tout. Voilà, se termine la fameuse émission sur Star Wars. Nous, on a passé de très très bons moments. J'espère que vous également. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lucie, la réalisatrice d'Évolution et des Innocents, et une grande monteuse très proche de Gaspard Noé et de ses œuvres. Ça va être encore passionnant. À la semaine prochaine. Et bonne soirée
à tous. Que la force soit avec vous.
À vous, merci pour la technique.
Que la force soit avec vous.
Et voilà, nous allons vous passer Cantina Band de Star Wars, de la guerre des étoiles. Un bon souvenir pour vous tous, nous tous, fans de Star Wars.
Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur le média de l'océan Indien.